Philippe Quentin et Martin McGuire, salut à vous deux.
Yes, bonjour Marie-Claude.
Alors, on revient sur ce qui se passe dans la LNH. Moi, j'ai 300 000 questions, mais je vais en poser deux simplement. Qu'est-ce qu'on fait de ces propos de Gary Bettman d'hier? Moi, j'entendais un joueur dire ce matin, ben là, si c'était un joueur qui demandait ça, ça serait non tout de suite. Bon, puis là,
c'est,
ben...
C'est son grand ami, Marc-Édouard Vlasic qui a dit ça.
Hein, ben oui, c'est ça. Puis,
il y a une vieille histoire d'amour entre ces deux-là.
Ouais, en effet. Et puis, ben, quand est-ce que ça va commencer? Alors là-dessus, je vous laisse discuter. Je vais embarquer de temps en temps, mais je vous laisse parler.
OK. La nouvelle la plus intrigante aujourd'hui, Marie-Claude, c'est certainement celle de Pierre Lebrun sur TSN qui nous apprend que plusieurs clubs de la Ligue nationale disent
écoutez,
si on ne peut pas jouer des matchs à l'intérieur avec des spectateurs, pourquoi on ne joue pas dehors dans des stades de baseball, de soccer qui seraient aménagés? Martin, personne ne l'avait vu trop venir, celle-là. Là.
Écoute, c'est comme on dit en bon québécois, c'est « from nowhere » cette affaire-là. C'est venu du champ gauche complètement. Alors qu'on entend qu'il y a quand même un pourcentage qui est non négligeable de propriétaires qui disent « pourquoi qu'on ne met pas la clé sur la porte puis qu'on ne revient pas en octobre 2021 seulement? » Et tout à coup arrive ça. Et tu sais qu'il y a des équipes qui sont assez avancées dans le processus, là. Les Bruins de Boston auraient même des choses d'engager avec les autorités de la ville de Boston pour être capable d'avoir un plan sanitaire pour utiliser le Fenway Park. La première équipe qui se serait avancée là-dessus, ce sont les Kings de Los Angeles.
Ben oui,
les
c'est Kings ça, c'est pas une équipe dans le Nord, là.
Non, pas du tout. Puis de toute façon, il y a déjà eu un match à l'extérieur pour les Kings, puis ça avait été un franc succès là-bas. Puis là, on vise le stade du LA Galaxy, une équipe de la MLS, parce que les propriétaires des Kings sont aussi propriétaires de ce stade-là. Ça peut accueillir 27 000 personnes. Et tenez-vous bien, les Ducks, les Pingouins dans le stade des Steelers de Pittsburgh et aussi Nashville, Dallas, la Caroline sont aussi des équipes qui ont levé la main puis qui ont dit « Hey, nous autres, là, on irait peut-être à l'extérieur. » Mais il faut comprendre là-dedans, Marie-Claude et Philippe, que d'aller à l'extérieur, c'est d'être capable d'amener des spectateurs. Amener des spectateurs, c'est générer de l'argent. Et surtout, faire un match à l'extérieur puis le vendre à tes télédiffuseurs locaux, comme si le Canadien faisait ça, ça devient un plus-value qu'on offre à RDS, le diffuseur local, c'est clair que ça sert à générer des revenus. Derrière cette idée-là, c'est juste ça. Là.
Messieurs, une question très, très terre-à-terre, mais ça serait où à Montréal si c'était dehors?
Ben non, c'est ça, c'est que les équipes
ça
canadiennes
a toujours été un problème, ça.
Ne sont pas dans le lot parce qu'à l'heure actuelle, tous les rassemblements sont interdits.
Non, je Alors, sais, mais si jamais, est-ce qu'il y a une place
si
à Montréal
jamais,
où on peut jouer
si
dehors
jamais.
Pour l'instant?
La seule place, c'est le stade Percival Molson.
C'est ça, le stade de l'Université McGill qui
possible.
Pourrait
c'est vrai,
éventuellement être utilisé. Ouais. Sauf que les règles sanitaires là, au Québec, je ne pense pas qu'ils pourraient le permettre à l'heure actuelle. Mais quand même, c'est une idée intéressante. Là-dessus, on va voir comment ça va évoluer. Mais Martin, je veux également, et Marie-Claude le disait d'entrée de jeu, là, parler des propos de Gary Bettman qui continue de se faire tirer un petit peu l'oreille là, face au retour au jeu, les propriétaires qui sont en demande. Et là, TSN, un journaliste très, très bien branché de TSN sur le côté légal du sport, Rick Wested, écrit que l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey est en train d'examiner ses recours potentiels si la Ligue nationale décide d'annuler la saison. Alors donc, cette menace-là semble assez sérieuse pour que l'Association des joueurs dise « Hey, on fait quoi si ça arrive? »
Ça, Philippe, ça fait partie de la négociation. Là, ça fait déjà quelques semaines que ça traîne, cette histoire-là, en coulisses. Là. C'est que l'association des joueurs a consulté ses aviseurs légaux. Et ce qu'on a dit, c'est que si jamais la Ligue disait « OK, il n'y en aura pas de saison, on revient juste à l'automne 2021 », à ce moment-là, il faudrait techniquement, selon les lois américaines, qu'il y ait un « lockout » de déclarer. Et comme on déclarait un « lockout », ben les avocats de l'association des joueurs ont dit ce serait pas légal. Ce serait pas légal parce que vous avez démontré que vous pouviez jouer malgré la pandémie et tout ça, puis que l'obstacle, c'est pas vous, parce que vous avez signé une entente en bonne et due forme. Mais entre vous et moi, là, ça ira même pas là. C'est le fun d'en parler, là, mais on n'ira pas jusque-là parce que je pense encore, Marie-Claude et Philippe, qu'ultimement, là, comme quand on est à la veille de faire une loi spéciale pour un conflit de travail, là, moi, je pense qu'à à 20 minutes là, de la loi spéciale, là, à 20 minutes de l'échéance, on va arriver avec un règlement.
La seule je le souhaite, Martin, mais je dois t'avouer que je suis un petit peu moins confiant que toi. Et pourquoi? Parce que je regarde ce qui s'est produit dans l'histoire. Tu sais, en 2004-2005, ouais. Saison annulée, combien de fois on a pensé que c'était sur le point de se régler? 2012-2013, voyons, ils vont s'entendre, ils ne sont pas pour refaire encore un lock-out après celui de 2004-2005. Ça a duré des mois, on a commencé l'année au mois de janvier. Ouais. Alors, des fois, quand la dynamique d'une négociation vire mal, quand la confiance n'est plus là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'entente, mais des fois, ça peut être très, très long, puis on pourrait rater encore plus longtemps.
Martin, qu'est-ce qui te donne l'espoir, toi?
Moi, ce qui me fait penser différemment de Philippe par rapport à ça, c'est ma lecture des propos de Gary Bettman. Dans les conflits auxquels Philippe fait référence, là, moi, je les ai couverts sur place. J'ai vu les visages, j'ai vu le non-verbal de ces gens-là. Puis là, il y avait envie, comme on dit, de lâcher les gants puis de s'affronter. Ce que M. Bettman a dit hier, là, c'est qu'il donne des pistes de solutions aux joueurs. Il dit, écoutez, messieurs, là, vous autres, vous voudriez qu'on vous enlève juste 28% comme c'était prévu. Il dit, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la pression sur notre système économique va être trop forte. Il va falloir aller plus loin que le 28%. Mm-hmm. Alors, moi, si j'étais vous, messieurs, là, je prendrais une coupe de paye un peu plus forte là, pour que dans 2-3 ans, on régularise la situation. Tandis que les joueurs de l'autre côté de la table se disent, OK, nous autres, on va prendre la petite coupure là, puis on verra dans 2-3 ans où nous serons, puis peut-être même qu'on va pouvoir ravoir notre argent. Mais Gary Bettman dit, ça, c'est un pari dangereux, messieurs, parce que si on est obligé de geler le plafond salarial à 81,5 pour plus de 2 ans, c'est-à-dire 3, 4 et même 5 ans. Il dit, c'est là, messieurs, que vous allez perdre.
Ouais. Alors, et là, il y a des joueurs qui ne sont même pas dans la Ligue nationale aujourd'hui, mais qui vont accéder à la Ligue dans les 2-3 prochaines années, qui vont payer pour ça. Alors ça, c'est un peu plate pour eux autres.
Hey, les amis, il reste une minute à peine. Est-ce que vous avez envie de parler quelques petits mots sur le Canadien en particulier?
Vas-y, Martin, tu voulais revenir rapidement sur les propos de Francis Bouillon, je pense.
Je voulais revenir effectivement sur ce que Francis nous a raconté hier, puis quelques trucs intéressants. Premièrement, il travaille au développement des joueurs. Ça se fait à distance parce qu'on ne peut pas être directement avec les joueurs. Mais il suit ses joueurs de près. Francis s'occupe des défenseurs. Il nous a parlé avec beaucoup d'éloges du jeune Jordan Harris qui joue actuellement à Northeastern dans la NCAA, un joueur qui serait prêt de graduer maintenant chez les professionnels. Il nous a parlé également de l'Américain Strouble, un autre joueur là, qui pourrait éventuellement joindre les rangs professionnels. Mais il nous a surtout fait une observation intéressante concernant le développement des joueurs et le passage dans la Ligue américaine, puis il a donné l'exemple de Josh Brook. Josh Brook avait beaucoup de succès chez les juniors, mais il a dit, là, il trichait un peu chez les juniors, parce que c'est un joueur qui avait un bon talent offensif. Mm-hmm. Il dit, là, dans la Ligue américaine, il a comme frappé un petit mur, puis là, il est en train d'avoir un peu d'adversité, mais il dit, cette adversité-là va faire en sorte qu'on va finir par avoir un meilleur joueur en bout de ligne. Bon. C'est de dire à quel point ces passages dans les ligues mineures, parce qu'on a parlé de Caulfield il y a quelques jours, ben, les passages dans les ligues mineures, là, c'est vraiment utile pour plusieurs joueurs. Bon. Et ça l'a été, ça l'est pour Josh Brook.
Et on doit se laisser là-dessus. Messieurs, merci infiniment. Martin,
salut Martin.
À bientôt. Et Philippe, à tantôt. Merci beaucoup.